À la Banque Van Breda, vous méritez plus de sérénité. Plus de sérénité pour écouter le brief pendant que nous nous concentrons sur vos questions financières. Banque Van Breda.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 8 mai et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
Le brief de l'écho.
Les élections, c'est dans à peine un mois et le bureau du plan a publié ce mardi son chiffrage des mesures prioritaires des différents partis. On fait le point pour vous dans le brief. À Bruxelles, l'allocation de bureaux est au plus mal. Avec le ralentissement économique, c'est l'un des pires débuts d'année jamais enregistrés pour ce secteur. Enfin, une étonnante collision des agendas judiciaires et cinématographiques. Ce mercredi, dans les salles, sort une affaire de principe. Le film raconte directement une affaire jugée en appel en ce moment. Je suis Ondine Ouarès et vous écoutez le brief.
Le brief, cette info dès 7h.
C'est un travail de titan, mais les experts du bureau du plan sont arrivés à chiffrer les propositions des différents partis en vue des élections. C'est la deuxième fois que le bureau du plan se livre à cet exercice. Ces résultats s'appuient sur une trentaine de mesures soumises par les partis eux-mêmes. Et contrairement à 2019, les partis ne se sont pas contentés cette fois de faire chiffrer les cadeaux promis à l'électeur. Ils ont aussi soumis des mesures qui permettent d'améliorer les finances publiques. Christine Scharf, vous avez analysé dans le détail les conclusions du bureau du plan avec Jean-Paul Bombartz. Aucun parti ne parvient à ramener le déficit sous la fameuse barre des 3%.
Il y a même des partis dont les mesures aggravent le déficit budgétaire par rapport au scénario de référence du bureau du plan. C'est le cas pour les mesures proposées par l'EMR et pour celles proposées par Défi. En fait, ce qu'on voit, c'est que l'EMR, qui est le parti francophone qui creuse le plus le déficit, est aussi le parti francophone qui améliore le plus le pouvoir d'achat, avec une progression de presque 12% sur l'ensemble de la prochaine législature. Et c'est aussi le parti qui assure la plus grande croissance économique. Et à l'inverse, si le PS arrive à améliorer la situation budgétaire, c'est grâce à une série de nouvelles taxes, comme la taxe sur le patrimoine, celle sur les plus-values ou la globalisation des revenus. Donc ça lui permet de financer non seulement ses nouvelles politiques, mais encore de garder un solde pour améliorer les finances publiques.
Du côté de la gauche, les trois partis proposent de taxer les riches, c'est un peu la grande mesure. Alors combien rapporteraient les différentes formules, Christine ?
Alors, le bureau du plan estime que la taxe sur les millionnaires proposée par le PTB va rapporter 3,9 milliards. C'est beaucoup moins que les 8 milliards qui étaient annoncés par le parti lui-même. Et pour la taxe sur le patrimoine du PS, là, le bureau du plan chiffre à 7,5 milliards les recettes de cette taxe. Pour celle d'écolo, on est à 3,6 milliards.
Quentin Joris, je me tourne vers vous. Vous êtes le news manager du service économie et politique de l'Écho et vous avez signé l'édito du jour sur le sujet. Pour vous, l'exercice du bureau du plan est particulièrement utile pour le débat démocratique, mais il est à double tranchant.
Il est à double tranchant parce qu'il a encore un certain nombre de limites. C'est un exercice qu'on a commencé seulement en 2019, c'est la deuxième fois qu'il est réalisé. Et quelles sont ses limites ? La première, c'est que les partis choisissent les mesures qu'ils soumettent au bureau du plan. La deuxième limite, c'est que le bureau du plan ne dispose pas nécessairement de tous les modèles pour tester les mesures. Alors aujourd'hui, on en voit certains qui disent « c'est moi qui ai le meilleur programme ». Enfin, tout le monde bombe le torse, tout le monde est très content. Il faut faire attention parce qu'il y a de la récupération politique, il y a parfois un peu de manipulation, les uns et les autres essayent de se faire passer pour les plus beaux. Il faut regarder tout ça avec nuance et se dire qu'au final, il y a beaucoup de mesures, mais ce ne sont pas nécessairement les mêmes qui sont comparées. Donc, il faut accepter cet exercice pour ce qu'il est et être conscient de ses limites.
Merci Quentin. Alors, retrouvez l'analyse complète du chiffrage des programmes sur l'écho.be ou sur l'app de l'écho. Et ne manquez pas aussi notre guide élections qui compare les propositions des partis à travers 60 questions. Bref, tout pour que vous soyez complètement équipés pour les élections du 9 juin. Je vous glisse les différents liens dans les notes de cet épisode. L'armée israélienne multiplie les frappes aériennes dans la bande de Gaza. Tsahal a déjà pris le contrôle du poste de frontière avec l'Égypte à Rafah. Le pays est pourtant hôte de pourparlers de la dernière chance pour une trêve associée à la libération d'otages. Depuis hier, Israël a fermé les deux principaux points d'accès à l'aide humanitaire. Des centaines de camions chargés de carburant, de médicaments et de vivres sont bloqués. Une mesure jugée inacceptable par les États-Unis notamment. Le pays a d'ailleurs suspendu sa livraison d'une cargaison de bombes à Israël. La Maison-Blanche appelle à un cessez-le-feu, mais Israël n'en veut pas tant que le Hamas n'aura pas été vaincu. Pour l'heure, l'État hébreu parle d'opérations ciblées à Rafah, mais tout laisse penser qu'une opération terrestre de grande ampleur se prépare, malgré la présence de près d'1,5 million de réfugiés dans la ville. La communauté internationale redoute un bain de sang et une aggravation de la situation humanitaire sur place. C'est le pire trimestre que l'on a connu depuis 5 ans. Voilà en substance le constat partagé par tous les agents immobiliers. Le marché de la location de bureaux à Bruxelles est particulièrement catastrophique depuis le début de l'année. Moins de 50 000 m² pris en location au premier trimestre, ça représente une baisse de près d'un tiers par rapport au premier trimestre de l'année passée et de 55% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Un déménagement, ça coûte cher et l'incertitude économique n'incite pas les entreprises à s'engager dans un nouveau bail. Geoffrey Tsertivens est spécialiste du secteur pour la société immobilière Cushman & Wakefield. D'après lui, les entreprises sont désormais à la recherche d'une offre plus qualitative avec plusieurs exigences. Il nous les énumère.
Je pense par exemple à la thématique de l'accessibilité. Certaines, par exemple, vont plutôt tabler sur l'accessibilité en transport en commun et vont donc naturellement se rediriger vers les grosses gares ou des arrêts de métro. D'autres, au contraire, tablent sur l'accessibilité en transport privé, donc la voiture, et pour des raisons évidentes, quittent Bruxelles et vont se retrouver sur la périphérie bruxelloise. En termes d'autres critères que nous voyons, c'est également le prix. Certaines entreprises décident de ne pas déménager et donc restent sur place et renégocient leur bail en essayant de diminuer le loyer. D'autres décident de quand même déménager pour aller vers des bureaux qui sont généralement d'une meilleure qualité, avec un loyer souvent du coup également plus élevé, mais sur une surface plus petite, ce qui fait en sorte que leur total cost of occupancy se retrouve plus bas à ce qu'ils avaient précédemment.
Pour la première fois en 2023, le monde a dépassé les 30% d'électricité d'origine renouvelable. C'est un rapport du Centre de recherche sur l'énergie Ember qui nous l'apprend. Le renouvelable représentait moins de 20% de la production électrique mondiale en 2000. Grâce à l'essor du solaire en particulier, mais aussi de l'éolien, on s'approche désormais du tiers d'énergie renouvelable. On peut s'en réjouir, mais bon, cette part aurait pu être bien plus importante. La production hydroélectrique est à son plus bas depuis 5 ans, du fait de sécheresses, en Chine notamment. Selon Ember, cette croissance pourrait permettre au monde, peut-être cette année, de voir décliner la production électrique d'origine fossile. Rappelons que les États se sont engagés à la COP28 l'année passée à tripler les capacités globales en énergie renouvelable d'ici 2030. Hasard du calendrier, le film « Une affaire de principe » sur l'affaire Dali qui a secoué les instances européennes sort aujourd'hui en salle. Et cette affaire de corruption dans les milieux européens va connaître dans les prochains jours un de ses derniers épisodes judiciaires. Le film d'Antoine Rimbaud met en scène un Bully Lanners très convaincant dans le rôle de José Bové.
Le commissaire à la santé de la Commission européenne est accusé de compromission avec le lobby du tabac.
Mr. Dali, did you accept 60 million euros to soften your director?
No. Never.
Fin 2012, le député européen monte au créneau pour défendre John Dali, commissaire à la santé, contraint de démissionner pour des présomptions de corruption par l'industrie du tabac. Bové, c'est le chantre de l'agriculture bio, ancien militant de la cause agricole au Larzac. Dali, il est plutôt favorable aux OGM notamment. Tous les opposent a priori, mais au moment de sa démission, le commissaire européen se battait pour faire passer un texte très restrictif contre l'industrie du tabac, avec des paquets neutres et l'interdiction de nombreux additifs. Pour José Bové, quelque chose ne colle pas. Tout le dossier à charge contre le commissaire européen repose sur l'enquête de Giovanni Kessler, qui était alors directeur de l'Office européen de lutte contre la fraude, l'OLAF. Une enquête menée en roue libre et en dehors des règles légales. Les accusations de Kessler finiront par se retourner contre lui. Dali est blanchi, mais brisé. Condamné en première instance à 1 an de prison avec sursis, Kessler s'est pourvu en appel. Un jugement en appel dont le verdict tombera le 22 mai prochain. Le site de location Airbnb doit donner ses résultats ce soir à New York et ils seront particulièrement scrutés par les analystes. Le premier trimestre du champion de l'allocation de vacances chez les particuliers devrait être plutôt bon, mais ce sont surtout ses prévisions qui seront analysées de près. La semaine dernière, son concurrent, le site Booking, affichait aussi de bons résultats pour le premier trimestre, mais le CEO Glenn Fogel a jeté un froid avec des prévisions peu optimistes pour la suite de l'année. Si Airbnb va dans le même sens, ça devrait confirmer la tendance d'une saison touristique en recul cette année, en tout cas moins fastueuse qu'en 2023. Les marchés européens ont clôturé sans direction ce mardi. Un peu plus tôt, les bourses européennes ont de leur côté terminé largement dans le vert. À Bruxelles, le BEL 20 a été porté par Solvay qui a gagné plus de 15%. L'indice a loupé de très peu la barre symbolique des 4000 points, un niveau qu'il n'a plus atteint depuis 2 ans. Allez, est-ce que vous reconnaissez cette musique ? C'est le podcast Tracker qui fait son grand retour. Tracker, c'est le podcast de L'Écho qui part à la rencontre des nouveaux profils d'investisseurs. Bonjour Salim Nesba.
Bonjour Andine.
Vous êtes le journaliste et le présentateur de Tracker. Tracker qui fait peau neuve, alors expliquez-nous un peu ce qui est au programme des prochains épisodes.
Alors comme lors des saisons précédentes, on va continuer à rencontrer celles et ceux qu'on appelle les nouveaux investisseurs, c'est-à-dire des personnes, monsieur, madame, tout le monde, qui investissent en bourse depuis quelques années et qui nous font part de leurs questionnements, de leurs stratégies. Et en complément à ces rencontres, on approfondira certaines thématiques, certains faits d'actualité dans des épisodes un peu plus talk où on invitera des professionnels de la finance qui réagiront à ce qui se dit, à ce qu'ils ont entendu dans les podcasts Tracker. Avec ce type de podcast, on a envie d'approfondir notre mission d'éducation financière. Ça nous tient à cœur d'expliquer à nos auditeurs comment les marchés fonctionnent, quelles sont les stratégies les moins risquées. Alors restez donc connectés à L'Écho sur le site et l'app pour écouter nos podcasts et bien sûr sur notre groupe Facebook Les Trackers de L'Écho.
Et pour ce 51e épisode, Salim, votre invité est pour le moins épatant. Il s'appelle Amaury, il est très jeune et il a créé un robot investisseur aux allures de boule de cristal. Écoutez-le.
J'ai créé un robot investisseur qui s'appelle TRDAI, donc Training Data Artificial Intelligence. En fait, c'est une intelligence artificielle deep learning qui s'entraîne sur des milliers de données de la bourse américaine, donc par exemple Nasdaq et NYSE, pour prédire le mouvement et le cours de la bourse dans le mois qui suit. Et faciliter les choix d'investissement pour les utilisateurs.
Et petite précision, tu as quel âge ?
J'ai 13 ans.
Oui, il est plutôt impressionnant le garçon. Alors si vous voulez écouter le témoignage d'Amaury en entier, je vous glisse le lien vers l'épisode dans les notes de celui-ci. Vous avez été plus de 250 à répondre à la grande enquête que nous avons lancée le mois dernier sur le Brief. Un grand merci. Ça nous fait d'autant plus plaisir que vous nous écoutez en général tous les jours. Le gagnant du casque audio a été tiré au sort et il sera personnellement prévenu dans les prochains jours. Alors si vous aimez le Brief, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. C'était le dernier Brief de la semaine. Oui, je sais déjà, on a bien le droit de s'accorder une petite pause. Allez, c'est Laurent Fabry qui vous retrouve dès lundi pour un Brief spécial élection avec son invité Maxime Prévost, le président des Engagés. Moi, je vous dis à très vite. Salut!
Vous méritez plus de passion. Vous méritez plus d'anticipation. Vous méritez plus d'anticipation de la part de votre partenaire patrimonial pour que vous puissiez toujours rester serein, même quand la bourse s'enflamme. Vous méritez également plus de Bank Van Breda pour votre vie professionnelle et privée. Bank Van Breda, réservée aux entrepreneurs et aux professions libérales.